La mine de droit au monde d'hier à aujourd'hui. La genèse des premiers sondages du sous-sol à l'exploitation minière. Les gisements de fer sont très présents au nord de la Lorraine et plus particulièrement en Meurthe-et-Moselle, dans les secteurs de Lomby, Brié et Jarny. Le bassin minier du Pays Haut présente une teneur en fer relativement pauvre, 30 à 36%, d'où le nom péjoratif de minette. Il contient beaucoup de phosphore, ce qui produit un acier cassant. Malgré ses inconvénients, des industriels vont souhaiter exploiter ce minerai. L'histoire de la mine de fer de Droitemont débute à la fin du XIXe siècle, lorsque deux scientifiques anglais, Sidney Thomas et Percy Gilchrist, découvrent un procédé permettant de retirer le phosphore de la fonte. Cette évolution industrielle constitue l'acte de naissance du bassin ferrifère lorrain, d'autant plus que ce minerai n'est pas profond, ce qui facilite son exploitation. Les usines sidérurgiques vont se multiplier et s'implanter à proximité des mines, qui deviennent en quelques années le poumon économique de toute une région. Dans les années 1880, les sondages géologiques débutent dans les secteurs de Jarny, Giroumont et Droitemont par diverses sociétés qui espèrent obtenir une concession pour exploiter les gisements de fer. Le 5 août 1887, la concession minière de Droitemont-Bruville, soit 1170 hectares, est accordée par décret à la société Schneider, une des plus puissantes entreprises industrielles européennes. Suite à une étude géologique détaillée, les résultats de celle-ci sont retranscrits sur un plan de relief présenté à l'exposition de Nancy de 1909. Durant deux décennies, la concession octroyée n'est pas exploitée. C'est vrai à Droitemont, comme dans le reste du bassin minier de Brié. En 1907, sur 42 concessions accordées, seules 17 d'entre elles sont exploitées et ou en cours d'aménagement. Ainsi, pour la mine de Droitemont, plus de 20 ans s'écoulent entre les premiers forages et la mise en exploitation. Les premiers travaux de surface débutent en 1907 avec la construction d'ateliers et d'une sous-station électrique. Dans les deux ans qui suivent, les opérations de fonçage des puits ont lieu, puis l'installation de chevalements sur chacun des deux puits. Le puits 1 est profond de 210 mètres. Il est dédié au personnel, au matériel, tandis que le puits 2 permet l'extraction du minerai. Le travail au fond bénéficie de l'introduction des premières perforatrices électriques à air comprimé et des progrès en matière d'explosifs. Les installations industrielles sont composées d'une centrale électrique, de deux pavillons réservés aux machines d'extraction, la première à vapeur en 1912 et la seconde électrique après la Première Guerre mondiale, d'une chaufferie, de deux puits distants de 90 mètres et d'un accumulateur de minerai d'une capacité de 14 000 tonnes. À cela s'ajoute un bâtiment accueillant des bains-douches et vestiaires, un grand atelier d'entretien et un raccordement ferroviaire de plus de 7 km de voie. Les installations du fond comprennent une chambre à pompe, de pompe capable d'évacuer 25 mètres carrés d'eau, d'eau d'exor par minute, un ventilateur, 400 wagonnets d'une contenance de 2,5 tonnes, 6 locaux tracteurs à benzol, complétés dans les années 1920 par 4 locomotives électriques. Le 22 avril 1910, le premier train chargé de minerai de fer quitte Droitemont en direction des usines de sidérurgie de la ville du Creusot en Saône-et-Loire, siège de la société Schneider. Le début réel de l'exploitation n'intervient que fin 1911. Le développement du chemin de fer permet de transporter le minerai vers les usines sidérurgiques. Dès 1908, une voie ferrée raccorde le carreau de mine de Droitemont à la ligne Nancy-Lomby. En 1914, le bassin ferrifère lorrain présente sa configuration définitive. Il compte une cinquantaine de mines à flanc de coteau, quelques mines à ciel ouvert et 28 mines à puits, dont celle de Trois-Thomons. L'ensemble de ces gisements produit 41 millions de tonnes de minette. Le travail à la mine. Il existe trois types de mines. La mine à ciel ouvert, bassin de Longwy et de Nancy. À flanc de coteau, secteur de Hayange. Et à puits, bassin de Briey, dont la mine de Droitaumont. Concernant ces dernières, leur chevalement caractéristique rappelle les houillères du bassin lorrain et du nord de la France. La mise en exploitation de la mine de Droitaumont datant du XXe siècle, de nombreuses avancées techniques ont déjà été apportées par rapport au premier chantier du siècle précédent. La mine à la main, abattage et chargement manuel, transport du minerai à cheval, a laissé la place à une mine plus mécanisée, avec l'introduction de l'électricité. Abattage à l'explosif, dont la puissance ne cesse d'augmenter, wagonnets électriques de plus grande capacité et tirés par une locomotive sur un réseau de rails plus étendu. De plus, l'arrivée de l'électricité permet l'utilisation de compresseurs pour alimenter en air comprimé les marteaux perforateurs pneumatiques et des marteaux piqueurs pour casser les blocs de minerai. Dans les années 1920, une grande partie de la production de Droitaumont est réalisée au moyen de grosses perforatrices rotatives électriques qui peuvent chacune extraire plus de 250 tonnes de minerai en 8 heures. Le chargement est mécanique. Ces progrès techniques favorisent la spécialisation du travail avec notamment la création du poste de porion, chef d'équipe responsable de la production et de la sécurité. Ils se traduisent par un bond en avant du rendement. Le travail au fond de la mine se décompose en plusieurs étapes. Le forage ou foration. Plusieurs trous sont percés dans la paroi. Au milieu des années 1950, le forage à main disparaît au profit de chariots de perforation, se déplaçant sur rail, puis sur pneus, et dénommé le jumbo. Le tir. Après avoir préparé les explosifs disposés dans des trous, la charge est amorcée pour faire exploser la paroi. Le purgeage. La solidité du plafond et des parois est contrôlée manuellement par une barre métallique et plus tard par une machine à purger. L'adhérence du bloc du minerai est évaluée en fonction de son obtenu, sonorité de creux ou de plat. S'il sonne creux, les mineurs font tomber le bloc. Le chargement. Une fois le minerai tombé, il est récupéré dans des berlines, puis il est remonté en surface dans une cage d'extraction sur des bandes transporteuses. Il s'agit du skip. Il faut attendre la fin des années 1920 pour pouvoir procéder à un chargement mécanique. Le boulonnage. À partir du début des années 1950, il s'agit de consolider le plafond de la paroi en enfonçant une tige métallique de 2 à 2,50 m. Cet ancrage permet d'avancer dans la galerie. Auparavant, le soutènement s'effectuait par boisage. Le toit des galeries était ainsi supporté par des piliers en bois. Sitôt en exploitation, la mine de Droitaumont produit rapidement des tonnages en forte augmentation, à l'image de l'ensemble du bassin de Briey en plein essor. Au démarrage, la production de Droitaumont s'élève à 70 tonnes par jour, puis 150 tonnes, et enfin 800 tonnes un an plus tard. Elle est envoyée au Creusot, siège de la société Schneider. Lors de cette première année de fonctionnement, 20 550 tonnes sont extraites de la mine de Droitaumont grâce à 171 mineurs de fonds et 116 employés de surface. Dans sa phase d'aménagement, la mine exploite des ouvriers qualifiés avec une large proportion de travailleurs nationaux recrutés sur place. Mais une fois en exploitation, l'embauche d'Italiens s'accroît tandis que le nombre de salariés français baisse. Le mineur est payé à la tonne extraite, ce qui impose un rythme soutenu à l'équipe composée de 6 à 8 personnes. La durée de travail est de 8 heures sur la base des 3-8. 6-14, 14-22, 22-6 heures, 5 ou 6 jours par semaine. Les salaires sont peu élevés. Ils oscillent entre 7 francs et 7 francs 50 par jour pour les mineurs de fonds. Les conditions de travail des mineurs sont pénibles. Ils travaillent dans des galeries étroites où la température varie entre 12 et 13 degrés. L'air est humide avec une faible teneur en oxygène. Il est difficilement respirable. D'autant plus que les galeries avancent. Plus les galeries avancent, plus il est nécessaire de créer une circulation de l'air forcée, notamment en raison des gaz d'échappement des engins, de la poussière des éboulements et des gaz de tir. L'aérage des mines est crucial pour le travail du mineur. Les galeries sont sombres, même si l'éclairage est assuré par des lampes à carbure ou frontales. Celles-ci sont récupérées à la lampisterie au moment de la prise de poste avant la descente au fond. Une fois qu'il a pris sa lampe, le mineur accroche un jeton au tableau de contrôle pour signaler sa présence et l'enlève lorsqu'il remonte du sous-sol. Être mineur est un métier à risque en milieu hostile. Outre la mauvaise qualité de l'air respiré et l'utilisation d'explosifs, le risque d'incendie n'est pas négligeable. En cas de fumée dans les galeries, des masques et des bouteilles d'oxygène sont prévus en sous-sol et des machines sont équipées d'extincteurs. Les rats font également partie du quotidien des travailleurs de la mine. À la recherche de nourriture, ils convoitent les musettes des mineurs. Pour éviter les dégâts causés par ces nuisibles, dans les vestiaires, les habits sont accrochés à des cordes suspendues au plafond. Ce local est d'ailleurs nommé la salle des pendus. Le creusement des galeries souterraines ainsi que le foudroyage provoquent des affaissements de terrain en surface. C'est pourquoi les opérations de purgeage et de boulonnage sont essentielles. L'étang de Droit-Thaumont s'est d'ailleurs formé suite à un affaissement minier en 1953. Le problème le plus récurrent est celui de l'exor. Le creusement des galeries souterraines s'effectue généralement sous la nappe phréatique. L'eau arrive de toutes parts, d'autant que le foudroyage favorise les infiltrations d'eau. Pour éviter l'inondation et l'ennoyage du sous-sol, l'eau est pompée, puis évacuée dans la rivière ou dans les réserves d'eau potable après traitement. Sans pompage des eaux d'exor, une mine pourrait être ennoyée en une journée. Le poids de l'eau pompée est 25 fois plus lourd que le minerai extrait. À Droit-Thaumont, en 1983, pour une tonne de minerai extraite, il faut évacuer 23,5 mètres cubes d'eau d'exor. Le travail au fond constitue le cœur de l'exploitation minière. Mais d'autres métiers que celui de mineur la caractérisent. La modernisation des techniques d'extraction du minerai de fer a développé des métiers comme mécanicien, hydraulicien, électricien, soudeur, ajusteur, regroupés au sein du service d'entretien. Le carreau de mine réunit l'ensemble des installations de surface nécessaires au fonctionnement de la mine. Chevalement, atelier, magasin où le matériel est stocké, vestiaire, lampisterie, centre d'apprentissage, bureau. C'est le haut de l'iceberg. Le lien entre la surface et le sous-sol est assuré par le puits. Les guerres, l'âge d'or, puis le déclin. Après seulement 3 ans d'exploitation, le développement de la mine de Droit-Thaumont est freiné par l'avènement de la Première Guerre mondiale. L'ensemble du bassin ferrière meurthe-et-mosellan tombe sous la domination allemande dès les premiers jours du conflit, à l'exception de Nancy. Dès le mois d'août 1914, la mine de Droit-Thaumont interrompt son activité. La mobilisation générale des Français, soumis aux obligations militaires, le retour de nombreux ouvriers italiens dans leur pays de naissance et les décisions des Allemands de démanteler une grande partie des installations sont à l'origine de cette interruption d'activité. L'exor reste néanmoins assuré. Cependant, courant 1916, les Allemands rééquipent la mine de Droit-Thaumont pour en reprendre l'exploitation. À la fin de cette année, les prisonniers russes procèdent à l'abattage du minerai. Leur manque d'expérience et leur malnutrition découragent les Allemands qui font à nouveau démonter les équipements. Ces prisonniers russes sont ensuite chargés du raccordement de la ligne ferroviaire d'Omécourt avec celle de Nancy. La guerre modifie le quotidien des habitants de Droit-Thaumont. L'école devient un hôpital militaire et l'enseignement des enfants est désormais dispensé au château de Moncel. L'armistice en novembre 1918 conduit à la reprise de l'exploitation minière, mais celle-ci est laborieuse. Les marchés sont effondrés et le niveau d'extraction est tombé au plus bas. De plus, la main-d'œuvre qualifiée manque et il faut recruter à nouveau. Une deuxième vague d'immigration amène en Lorraine des milliers de familles italiennes, polonaises, mais aussi yougoslaves ou tchèques, qui sont logées et prises en charge par la mine. Fin novembre 1918, M. Leckmann, le directeur de la mine de Droitemont, est de retour sur le site, accompagné d'une équipe d'ouvriers et d'employés qui s'étaient réfugiés au Creusot. L'occupation allemande a causé beaucoup de dégâts, tout est à reconstruire. C'est un an plus tard qu'intervient la reprise de l'extraction. Dans le bassin ferrifère, il faut attendre 1927 pour que la production trouve son niveau d'avant-guerre. En 1929, un nouveau record de 47 millions de tonnes est établi. Mais la crise économique qui frappe l'ensemble de l'industrie sidérurgique brise aussitôt cet élan. Entre 1932 et 1934, la production de Droitemont baisse de 70%. La société Schneider licencie du personnel, plus de la moitié des effectifs en 3 ans. La situation économique de la sidérurgie et des mines s'aggrave à l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne nazie. Le bassin occupé travaille une fois encore pour l'ennemi. La pénurie de main-d'œuvre pousse les nazis à utiliser des 42, des prisonniers des pays de l'Est, surtout des Ukrainiens. Sous-alimentés et épuisés à la tâche, beaucoup ne reverront jamais leur pays. Le 13 juin 40, l'ingénieur en chef de la mine de Droitemont donne l'ordre de saboter les sous-stations électriques et d'ennoyer les galeries. Malgré tout, l'Allemagne répare les dégâts et procède au dénoyage du sous-sol. L'exploitation de la mine reprend en avril 41 sous l'autorité d'un beau Fracht, nouveau directeur de la mine mandaté par le Reich. La main-d'œuvre est renforcée grâce à l'arrivée de plus de 300 jeunes déportés polonais. Le 3 septembre 1944, l'occupant allemand quitte la mine et la région. Au lendemain de la guerre, malgré d'énormes besoins de minerais et d'acier, la production reste faible en raison de la proximité des combats et des difficultés d'approvisionnement. À partir de 1950, la sidérurgie redémarre et la production de minerais progresse très rapidement. En 1951, Schneider cède la propriété de la mine à la société des mines de Droitemont-Bruville, nouvellement créée depuis quelques années. Puis, quelques années plus tard, deux nouvelles concessions sont octroyées. La concession de Brinville, 1100 hectares, et de Conflans, 800 hectares, qui ne seront finalement pas exploités. En 1960, la mine de Droitemont connaît son âge d'or, avec plus de 1,3 million de tonnes de minerais extraits de son sous-sol. C'est l'ère de la modernisation. La mécanisation des techniques d'exploitation initiées dans les années 30 se poursuit dans l'après-guerre avec la généralisation du forage pneumatique, le jumbo, qui décuple la puissance du tir d'explosifs, l'arrivée de chargeuses mécaniques et du boulonnage qui permet de supprimer le bois de soutènement. Néanmoins, même si les rendements ont beaucoup augmenté à la fin des années 50 grâce aux évolutions techniques, les conditions de travail des mineurs ont peu évolué depuis 14. Ils sont toujours rémunérés à la tonne et paient toujours leur poudre, outils et autres matériels utilisés. Au tout début des années 60, le puits 2 de Droitemont est remplacé par une tour d'extraction. Quelques années plus tard, le purgeage se mécanise grâce à des machines munies d'un bec au lieu d'un godet. Les conditions de travail évoluent vers une plus grande spécialisation des hommes pour utiliser au mieux les machines. Le personnel qualifié des ateliers d'entretien prend une grande importance. Le salaire du mineur progresse avec le rendement, ce qui lui assure le niveau de vie confortable. En 60, la Lorraine ne connaît pas le chômage et ses mines assurent 94% de la production nationale. Alors que les prévisions sont optimistes, les mines de fer entrent en 1963 dans une crise de longue durée. Notre région n'a plus le monopole d'extraction du minerai de fer qui s'est développé dans une dizaine de pays : Canada, Australie, Amérique du Sud, Afrique occidentale, où l'exploitation pratiquée à ciel ouvert est moins coûteuse. Les industries sidérurgiques européennes importent un minerai de fer moins onéreux, avec une teneur plus riche en fer. De plus,
Le Minerai Lorrain est pénalisé par le coût d'une exploitation souterraine et des tarifs ferroviaires en hausse constante. Les sites les plus touchés sont ceux dont la vente de minerais à l'extérieur constitue l'activité principale. Sancy, La Mourière, Valleroy qui ferment dès 1968. De 63 à 69, 18 mines sur 53 ferment et leurs effectifs sont réduits de plus de la moitié en 10 ans. C'est la période des luttes sociales. À Droit-Thomont, les premiers licenciements interviennent en 66. Le conseil municipal de l'époque s'insurge contre cette décision, appelle toute la population de Jarny à prendre conscience de la gravité de la situation et à s'unir autour du combat local de défense du bassin ferrifère et assure les mineurs et leurs familles de son soutien total, de son appui sans réserve pour la défense de leur emploi. Ce type de délibération se succède dans les années 70. En mars 77, une motion du conseil municipal dénonce les plans patronaux et gouvernementaux visant à la liquidation de la sidérurgie et des mines de fer du PIO et en Lorraine, dont les conséquences sont dramatiques. Milliers de licenciements, aggravation des conditions de vie de sidérurgistes et des mineurs. Un an plus tard, la société minière de Droit-Thomont-Bruville licencie à nouveau 64 personnes. Le conseil municipal délibère, à plusieurs reprises, en faveur de la nationalisation des mines en général et celle de Droit-Thomont en particulier. En 78, la mine de Droit-Thomont ferme, elle aussi ses portes, suivie de celle de Jarny. En 83. La mine de Droit-Thomont survit quelques années supplémentaires en raison de la teneur en fer de son minerai de 36%. Mais le 20 janvier 86, alors que le site compte près de 180 salariés, la mine de Droit-Thomont cesse son activité. La plupart du personnel est contraint d'aller travailler à la mine de Roncourt et le reste, soit une dizaine de personnes, sur les sites sidérurgiques de la société sidérurgique d'Arbède. La fermeture des mines intervient alors que les mines de fer sont mécanisées pour une exploitation de haute performance et l'obtention de seuils de production maximum. Les mineurs ont été sacrifiés à la politique du rendement et de la modernisation. Le démantèlement du carreau de la mine de Droit-Thomont débute en 88. La destruction du chevalement du puits 1 a lieu en mars 89, suivi de celle de la tour d'extraction du puits 2, trois mois plus tard. Ainsi s'achève l'histoire du bassin minier lorrain, qui a produit 3 milliards de tonnes de minerais, alors que les installations de surface sont démantelées, 40 000 km de galeries subsistent toujours dans le sous-sol lorrain. Trois grands témoins du passé minier jarnisien racontent. René de Iseppi, Pierre Janin et Jean-Paul Goffet ont en commun d'avoir été employés à la mine de Droit-Thomont. Ils sont les témoins d'une époque où régnait l'industrie du fer et de l'acier, une industrie qui a fait la richesse de notre région et placé la Lorraine au tout premier plan de la révolution industrielle du XXe siècle. Pour ce numéro de Jarny Patrimoine, les artisans de l'extraction du minerai de fer ont des choses à dire à la communauté jarnisienne. Du centre d'apprentissage au fond, plus de 30 ans passés à la mine. René, entre un apprentissage à la mine en 1952. Il a 15 ans. C'est à la sortie de l'école primaire, avec le certificat, qu'on partait à la mine, surtout quand, comme moi, on était fils de mineur. Ça commençait par 3 ans au centre d'apprentissage pour passer le CAP de mineur. Pour Pierre Janin, son aîné de quelques années, c'est le 1er septembre 1949 que tout commence. En fait, je n'ai fait qu'un an d'apprentissage et fin août 50, j'ai eu le CAP de mineur. Si je suis arrivé en retard à la mine, c'est que j'ai commencé par être apprenti mécano au garage Peugeot de Jarny, où un apprenti gagnait 15 centimes. Il s'agissait d'une petite somme, alors que mes copains avaient 60 centimes par jour et 1,20 francs au fond, 10 fois plus que moi, au centre d'apprentissage de la mine. Je n'ai pas hésité longtemps. Le petit dernier, Jean-Paul Coffez, arrive au centre en 59. Je suis un des derniers apprentis qui ont fait 3 ans d'apprentissage. Mais si j'ai été un peu mineur au fond, ensuite, j'ai surtout travaillé au service d'entretien, car j'étais bon en mécanique. J'ai terminé en qualité d'électromécanicien en 84 à la fermeture de la mine. À cette date commence, pour les mineurs de droit tout monde, qui n'avaient pas atteint l'âge de la retraite, la longue suite des mutations. Jean-Paul Goffez se souvient. Avec 7 ou 8 autres, tout en habitant Jarny, nous avons été envoyés à Audaltiche, puis Sérouville et enfin Tressange. On a vu la différence. Ce n'était pas droit au mont où régnait une très bonne ambiance de copains, surtout à l'entretien. J'ai personnellement fait les 3-8 jusqu'à ma retraite en 94. René revient sur le dur chemin suivi par tout mineur à cette époque. Dès la deuxième année d'apprentissage, on descendait au fond un jour sur deux dans un quartier aménagé à l'abattage et on chargeait les wagons. Après 3 ans d'apprentissage et l'obtention du CAP, on était aide-mineur. Au fond, on remplaçait des mineurs dès que cela était nécessaire. Ils ont chacun donné une bonne 30aine d'années de leur vie à la mine et en ont tiré des enseignements. Pour Pierre, après l'armée, je suis revenu à la mine avec difficulté. Ce n'était pas ma tasse de thé. J'avais mon père et mes 2 frères mineurs, et mon père ne voulait pas me voir aussi à la mine. Pourtant, j'ai fait tous les stades du métier, jusqu'à ma retraite en qualité de responsable d'équipe. J'ai travaillé 32 ans et je suis parti en retraite à 50 ans. René a vécu une histoire peu ordinaire. J'ai fait mon service militaire dans l'armée française, 2 ans à Thionville, alors que j'étais italien. À mon retour, je suis allé au commissariat pour établir mes papiers d'identité et on m'a dit que ce n'était pas possible parce que j'étais italien. Une histoire de fou. Comment j'ai pu faire de 2 ans de service militaire si je suis italien? Du coup, ma femme qui était française serait devenue italienne. À chaque démarche, je me faisais renvoyer. Finalement, après des années, alors que je ne demandais plus rien, ma situation s'est réglée. J'ai pris ma retraite en 84 à l'âge de 46 ans, après 31 ans de mine. Mais comme je faisais moniteur d'auto-école depuis 72, j'ai continué dans cette voie. Pierre porte bien son âge. J'ai 85 ans. Il faut croire que la mine conserve. Mais on était 21 au centre d'apprentissage en 49. Et on n'est plus que 3 de cette époque. La vie passe vite. J'ai arrêté en 81 après 32 ans de mine, toujours au fond, mis à part 1 an et demi de service militaire en Allemagne. Un métier difficile. Pierre évoque la dureté du métier. Je me souviens avoir commencé un samedi. J'ai tout de suite été mis au chargement des wagons qui contenaient 2,5 tonnes chacun. On en remplissait 10 à 12 par jour, c'est-à-dire 25 tonnes en 8 heures. Après le CAP, à 18 ans, j'ai été chargeur à la main. Comme on se payait nous-mêmes nos bleus, ma mère m'avait cousu plusieurs épaisseurs de tissu au genou pour me protéger des frottements de la pelle. Une équipe comprenait 1 mineur et 2 manœuvres et on sortait environ 27 wagonnets, soit plus de 65 tonnes par jour. René a été logé à la même enseigne. On était payé au rendement, dans mon quartier aussi, avec un chef mineur. On sortait 25 tonnes par jour et pendant 15 ans, on était éclairé avec une lampe à carbure. Ces premières années ont vraiment été dures. Ensuite, avec la mécanisation, c'était peinard. Mais du coup, on chômait 1 semaine par mois et on changeait de quartier chaque semaine. On était 7 par équipe, volante. On était mieux payé, mais le fumet de diesel, c'était le pire. Et dangereux. Jean-Paul confirme que travailler à la mine n'était pas une promenade de santé. Il fallait sans cesse veiller aux chutes des blocs. Dans mon activité d'entretien, les dépannages étaient dangereux et nous intervenions un peu partout. Concernant les dangers quotidiens menaçant les mineurs, chacun de ces a ses souvenirs plus ou moins tragiques. Pour René, au début, il y a eu des morts, comme mon cousin, et j'y étais. Avec le temps et la vigilance des mineurs, il y en a eu beaucoup moins, peut-être 1 tous les 15 ans.
Pierre a lui aussi des images à l'esprit. J'en ai vu des accidents, en particulier un jeune de 20 ans qui devait se marier quelques jours plus tard. Il a eu la tête brisée entre des tampons de deux wagons. C'était mon voisin. La Seconde Guerre mondiale, une période sombre. Parmi les pages marquantes de l'histoire de droit au monde à faire connaître au plus grand nombre, il y a la période noire de la Seconde Guerre mondiale. Pierre se souvient. Pendant cette période, des prisonniers de guerre étaient forcés de travailler à la mine. Ils étaient enfermés et à peine nourris par les nazis. Les Français étaient solidaires de ces malheureux et l'ont pour certains payé cher, même pour un simple soupçon. Mon père, qui avait des idées très à gauche, s'est enfui avec mon frère à Ville-sur-Iron. Les Allemands, sur dénonciation, embarquaient des gens. Ainsi, des mineurs soupçonnés d'être de gauche, et notamment du Parti communiste, ont été déportés. Je pense notamment à messieurs Chocky, Verrier et Claude, tous morts en déportation. Jean-Paul a sans doute raison de dire les anciens de Droit-Thomont, réunis au sein de l'association 39-45, comme les années de naissance de ses membres, ont la responsabilité de faire connaître l'histoire de la mine. Un devoir de mémoire nécessaire. Quand on leur demande leur avis sur l'industrie minière en général, et la mine de Droit-Thomont en particulier, ils s'accordent à dire, comme Pierre, que la fermeture des mines ne se justifiait pas vraiment. À Droit-Thomont, il restait au moins 25 années d'extraction possible de minerais. Il y eut environ 600 mineurs et à la fin autour de 200. Ici, le minerai avait un taux de fer de 36%, ce qui, pour la Lorraine, est élevé. Pourtant, on ne peut faire le reproche aux mineurs de ne pas avoir lutté des décennies durant pour non seulement faire valoir leurs droits, mais aussi défendre la richesse naturelle qu'est le minerai de fer. On a souvent fait la grève, notre nid. Conserver et transmettre la mémoire de l'histoire minière est essentiel. Jean-Paul indique qu'il est personnellement engagé dans cette mission. Après 35 ans de mine, je suis en retraite et je fais partie de ce qu'on appelle l'équipe du mardi, qui s'occupe de l'entretien des chemins de randonnée et l'entretien d'une mare de conservation et de transformation du site de la mine. Nous avons en projet la réalisation d'une sorte de mémorial. Par exemple, depuis 1912, j'ai recensé 35 mineurs tués à la mine. Deux plaques rappelaient les noms des mineurs tués à une période antérieure. Elles ont disparu quand les anciennes installations ont été détruites. Malgré nos efforts, nous n'avons pas encore réussi à restituer ce souvenir précieux. Il conclut, quand on a des enfants et petits-enfants, on mesure l'importance de connaître et de faire connaître cette histoire. De nombreuses personnes ignorent qu'il y avait une mine à cet endroit. Il faut que tout le monde le sache. La cité minière. L'aménagement urbain et l'organisation spatiale de Jarny résultent en partie de son histoire minière. Deux quartiers mineurs ont été construits proches des anciens sites d'extraction, à Moulinelles et à Droit-Thomont. Lors de la mise en exploitation des gisements de fer, les sociétés minières font massivement appel à la main-d'œuvre étrangère, principalement italienne et polonaise, pour édifier des puits et mettre en route les exploitations. En 1886, le recenseur compte à Droit-Thomont 186 maisons pour 217 ménages, et grâce à la mine, le quartier connaît une première expansion en 1911. 423 maisons recensées pour 821 ménages. Tous les travailleurs ne parviennent néanmoins pas à se loger sur place. La raréfaction des logements engendre l'augmentation des loyers à Jarny de 130 francs par pièce et par an à 180 francs. D'autres vivent sur place, mais dans des logements précaires avec des lits communs où deux voire trois ouvriers se succèdent en fonction de leurs heures de travail. Des cantines privées fleurissent également aux abords du carreau de la mine. Construite en bois ou en torchis, elle possède souvent deux étages. Le rez-de-chaussée sert à la fois de réfectoire, de débit de boisson, de salle de danse et de cuisine. À l'étage se trouve un dortoir très mal éclairé, avec un plancher couvert de paillasses sur lesquelles les ouvriers dorment. Les conditions de vie y sont pénibles en raison de l'insalubrité
et de la promiscuité. La société Schneider fait alors le constat que le petit village de Droit-Aumont, dont la population est pourtant en plein essor, ne peut offrir assez de logements aux nouveaux venus. Aussi, elle décide d'assurer à son personnel des conditions de logement convenables à proximité de leur lieu de travail. Pour fixer et stabiliser la main-d'œuvre, elle fait construire une cité ouvrière. L'amélioration des conditions d'hébergement permet aux industriels de disposer d'un personnel fidèle, tout en diminuant les risques de mouvements sociaux et en atténuant la concurrence salariale entre les diverses exploitations. Le logement du personnel devient alors le complément indispensable de l'industrie et Schneider acquiert 800 hectares auprès du comte de Redon, les terres de Moncel, les fermes de Moncel, de Sainte-Catherine, de la Grange, du Broyot, ainsi que le bois du Four et tout le terrain autour de la mine. Schneider met alors en place une politique de l'habitat structurée en fonction de critères sociaux et moraux, afin de préserver la hiérarchie de l'entreprise en dehors du lieu de travail. En effet, la cité minière présente deux espaces bien distincts. Les logements des cadres, plus confortables que les autres, ne cohabitent pas avec les habitations des employés et des ouvriers. De plus, les célibataires, jugés instables, sont séparés de mètres d'intervalle par chacune des rues. Chaque logement dispose d'un jardin. Il est composé d'une cave, d'une cuisine, d'une pièce à vivre et d'une laverie en rez-de-chaussée et de deux chambres à l'étage. Le loyer et le charbon sont retirés du salaire. Quand un ouvrier quitte la mine, il doit également quitter la maison. À partir de la fin des années 60, les sociétés minières se désengagent progressivement de la gestion des logements de leurs salariés. La vie collective de la cité est totalement prise en charge par la société Schneider qui construit une école, une salle des fêtes, un lavoir en contrebas de la rue Jean Moulin et une gare. Tout est prévu pour que les ouvriers puissent y vivre sans en sortir. Alimentation, loisirs, santé, œuvres sociales. En 1911, les cités minières hébergent 243 personnes dans 39 maisons. Peu avant la Première Guerre, la construction de trois rangées d'une trentaine de maisons est achevée. Ce sont les actuelles rues Jean Moulin, Pierre Brosselette et Gabriel Péri, désignées à l'époque par les lettres A, B et C. Une distance est marquée avec les cadres, dont les maisons plus confortables sont construites au-delà du bois du Four. Les célibataires sont quant à eux logés au Tripoli, dans 10 logements de 2 pièces implantés dans l'actuelle rue de Milan. Les maisons des cités ouvrières sont jumelées, mais elles possèdent des entrées individuelles. Elles répondent à une volonté d'hygiène et de confort. Même si elles ne bénéficient pas toutes du tout à l'égout, des pompes à eau sont installées à des mètres d'intervalle de chacune des rues. La construction du groupe scolaire de Droit-Aumont est achevée en 1914. Cette école accueille les enfants d'ouvriers et remplace le premier établissement scolaire aménagé dans la maison de la rue C. Elle compte une école de garçons et une de filles, ainsi qu'une école maternelle. Dans les années 30, plus de 300 élèves fréquentent cette école. La gare est érigée à l'extrémité de la rue des Écoles, entièrement financée par la société Schneider, qui débourse 51 300 francs pour établir une halte de voyageurs à Droit-Aumont, après avoir obtenu l'accord de la compagnie des chemins de fer de l'Est. La gare est modeste, avec une salle d'attente au rez-de-chaussée et le logement du chef de gare à l'étage. Située sur la ligne Nancy-Longwy, elle remplace l'omnibus qui relie jusqu'alors Droit-Aumont à la gare de Conflans-Jardy. La cité minière est un lieu plein de vie. Au croisement des rues du Bois de Four et du Bruville, une cantine ouvrière fait office de restaurant et de café. Cet établissement, connu sous le nom de Baracon, propose également quelques chambres en location, ainsi qu'un salon de coiffure et un débit de tabac. Les cabarets et les cafés se multiplient. À cette époque, Droit-Aumont Village compte 7 cafés. Des cabarets fleurissent long des routes. Dans les années 10-20, l'alcoolisme et la prostitution semblent être répandus à Droit-Aumont. C'est à cette même période que le commissariat voit le jour, un temps refusé pour les communes de Conflans, Labrie, Giraumont et même Jarny, estimant que la présence policière n'est pas nécessaire. La création de cet établissement est également soutenue par la Société des mines de Droitemont et celle de Jarny. L'amusement et les loisirs peuvent également être bon enfant. Le sport fait partie du quotidien des mineurs. Une équipe de football, à l'effigie du quartier, voit le jour. L'entente fraternelle de cheminots mineurs de Jarny-Droitemont. Dans la salle des fêtes, construite par la Société Schneider, on danse, on fête les départs en retraite ou la Sainte-Barbe. La vie des mineurs est en effet rythmée par des fêtes et manifestations. Chaque 14 juillet, les écoliers de Droitemont assurent un spectacle. Dans le bois du four, à côté de la salle des fêtes, et le même jour, un comité allie le jardin le mieux fleuri des cités. Les dimanches, les bistrots et les cafés sont très fréquentés. On peut y jouer au jeu de quilles. Parmi les fêtes et manifestations, la Sainte-Barbe occupe une place centrale dans la vie des mineurs. Le martyr de Sainte-Barbe remonte aux alentours de 235 dans l'ouest de la Turquie. Barbara, fille unique d'un riche païen, est décapitée par son père lorsqu'il apprend qu'elle s'est convertie au christianisme. À peine son crime commis, il est mortellement frappé par la foudre. Sainte-Barbe est la patronne de toutes les corporations qui font usage d'explosifs, artilleurs, artificiers, mineurs, sapeurs-pompiers. À Jarny, la statue de Sainte-Barbe, après avoir été remontée de la mine, a désormais trouvé sa place dans le cœur de l'église Saint-Maximin. Le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, constitue l'une des dates les plus importantes du calendrier minier. Ce jour-là, les cités minières sont très animées. Tout le personnel de la mine, directeur, ingénieur, contremaître, ouvrier, en passant par les apprentis, revêt sa tenue dimanche. La journée est chômée. Croyants et non-croyants se mettent sous la protection de Sainte-Barbe, qui intercède auprès de Dieu pour mettre les mineurs à l'abri des accidents. Après la messe, tous suivent le cortège, dans lequel la statue de Sainte-Barbe est portée par des mineurs en bleu de travail, avec casque et lampe sur la tête. Cette procession relie l'église à la salle des fêtes, où un grand vin d'honneur est servi, suivi d'un bal. Après les cérémonies officielles, les mineurs font la fête entre eux, en dansant, en buvant du vin et en chantant. Au fil des années, le rituel catholique disparaît peu à peu, et la Sainte-Barbe s'est transformée en un moment d'expression des revendications syndicales des mineurs. Les festivités conservent quant à elles toute leur place. Pendant presque 80 ans, la fête de la Sainte-Barbe est le symbole de la vie de quartier à Tence. La renaissance du carreau de mine de Droitemont. Malgré la fermeture de la mine en 1986, le quartier de Droitemont a continué à se développer avec la construction d'habitations, rue du Bois du Four et Jean Rostand autour de la chapelle et route de Friouville. Du temps de l'activité minière, Droitemont était un quartier vivant. On y travaillait, on y allait à l'école, on y dansait dans la salle des fêtes. Pour impulser un nouveau souffle, habitants et municipalités ont uni leurs efforts afin de donner une seconde vie au carreau de mine. En effet, depuis 2005, quelques habitants du quartier, tous bénévoles, la plupart anciens mineurs, donnent de leur temps pour réaménager le site. Cette intervention a pu être initiée grâce au Fonds d'initiative citoyenne, dispositif financé par la ville et le conseil départemental. Après un important travail de défrichement, des chemins pédestres ont été tracés en lien avec des parcours de randonnée en direction du château de Mancel. Des arbres ont été plantés, une mare a été réhabilitée, une passerelle sur l'Iron a été aménagée ainsi qu'un coin pêche et une aire de jeu. En 2009, l'aménagement d'un espace dédié à l'historique de la mine de Droitemont a permis de rendre hommage aux mineurs. La ville de Jarny remercie vivement les bénévoles pour leur engagement sans faille au service de leur quartier et de la vie locale. Cette contribution citoyenne représente des milliers d'heures de travail qui ont permis de réaffirmer l'identité minière de Droitemont. Les habitants se sont réappropriés les lieux. Un nouvel espace public a ainsi été aménagé au profit de tous. Les enfants avec l'air de jeu, les familles qui peuvent s'y promener en toute quiétude, les pêcheurs et les randonneurs. Chaque été, les participants au chantier jeunes viennent prêter main forte aux bénévoles. Dans la continuité de cette requalification, la ville a souhaité procéder à la réhabilitation architecturale du bâtiment du carreau de mine en partenariat avec l'établissement public foncier de Lorraine et finaliser ainsi les aménagements réalisés par les bénévoles du quartier. Pour conserver et valoriser ce patrimoine industriel remarquable, une salle socioculturelle de 140 mètres carrés est aménagée dans les anciens magasins pour le comité de quartier, les associations et les habitants pour les réunions, des expositions, des fêtes de famille. Un espace extérieur de 4500 mètres carrés équipé de bornes d'eau et d'électricité peut acquérir diverses festivités, brocantes, cirques, fêtes de quartier, etc. Un parking complète ses aménagements. Des bâtiments ont été conservés. Le magasin et le garage transformés en lieu de stockage et en sanitaire, tandis que d'autres ont été démolis, la bâtisse dite l'huilerie et l'ancien atelier. L'opération menée avec l'EPFL s'élève à 2,3 millions d'euros, dont 1,5 million pris en charge par la ville. Ce nouveau site a été inauguré le 16 et le 17 septembre 2017 à l'occasion des Journées du patrimoine. Il porte le nom d'espace Rachel Foglia, enfant de Droitaumont et élue locale décédée en 2014, en hommage à tout le travail qu'elle a réalisé pour la ville de Jarny et le Jarnisy. Des animations culturelles et festives sont organisées pendant ces deux jours-là. Après plus de 80 ans consacrés à l'exploitation minière, le carreau de mine de Droitaumont est désormais dédié à la culture, aux festivités et à la détente. Ce lieu hérité du passé minier de Jarny a traversé les décennies et devient à nouveau un lieu de vie.